Je peux peut-être commencer simplement pour apporter un petit peu dans le droit fil de ce que tu as dit, l'idée qu'on pourrait peut-être vérifier un certain nombre d'informations. Je vois que Christophe Rau s'arroge le droit d'avoir réformé le théâtre de Marinette en Pologne. Je peux peut-être amener sur ce point précis des informations, puisque je suis très lié avec les acteurs de ce théâtre, que j'ai vécu toute cette histoire de l'intérieur, et que ça vaudrait la peine d'interroger, donc par exemple, l'attaché littéraire, ce qu'on appelle l'attaché littéraire, qui est la dramaturge, celle qui accompagne le directeur, qui était déjà sous Itzmann, qui a été sous Christophe Rau, qui a été ensuite avec l'ancien directeur et qui est devenue aujourd'hui directrice du théâtre. Donc elle connaît très très bien l'histoire. Mais interroger aussi les chefs de fabrication, qui sont les gens qu'on ne voit jamais. Bien souvent, les scénographes s'arrogent le droit de la scénographie, mais derrière, il y a des gens formidables qui ont un savoir-faire sur l'espace et sur la fabrication des objets. Et ces gens-là sont vraiment porteurs de l'histoire des théâtres. Zitzmann était le directeur fondateur du théâtre. Avec une toute petite interruption, mais il en a assuré la direction. Et il a vécu donc la décentralisation, c'est-à-dire que il y avait donc 20 ou 24 théâtres nationaux de marionnettes avec un financement de l'État, et ces théâtres sont passés avec des financements région-ville, Voïvodie-ville ou que ville. Dans un premier temps, c'était Voïvodie, donc région et ville. Évidemment, le pouvoir changeant de main et Zitzmann ayant été tout de même suspect parce qu'il avait traversé tout le pouvoir, il a été tout simplement liquidé politiquement. Et le nouveau pouvoir en place a imposé quelqu'un d'autre qui était Christophe Rau. Simplement, Christophe Rau est arrivé en disant j'impose. Alors, il s'agit d'un théâtre avec 60 permanents, donc 18 comédiens permanents. Et il est arrivé en disant j'impose mon équipe artistique, c'est-à-dire les comédiens d'ici s'en vont, et je travaille avec mes comédiens. Ce qui évidemment a créé une grève, ce qui évidemment a créé un grand trouble. Et Christophe Rau continuant à travailler pour ses mises en scène uniquement avec son équipe artistique, les comédiens permanents recevant la solde qui représente un SMIC, et ensuite vous avez plus d'argent si vous êtes engagé dans les productions, il y en avait 4 à 5 par an. Donc Christophe Rau continue à travailler avec son équipe artistique et bien sûr avec la jeune première et le mime, puisque c'est une tradition dans beaucoup de théâtres polonais. Il y a forcément besoin d'une jeune première extrêmement mignonne qui ne sait pas forcément manipuler, mais qui est chargée de séduire le public et notamment les préadolescents. Et quelqu'un qui est très très fort sur le plan du théâtre gestuel et qui a les parties de clown, donc cela on ne peut pas s'en passer. Et donc il a dû négocier pour des raisons économiques avec l'équipe artistique, et il a dit si vous voulez travailler, formez-vous donc en sorte de commis ouvrier, inventez dans les comédiens des metteurs en scène, sortez des nouveautés et voyons ce qui, et je verrai avec mon équipe administrative si on peut faire tourner ça. Donc voilà les conditions réelles de la réforme de la production et de la réalisation des spectacles en Pologne. Donc ça mériterait de continuer, de pas me faire confiance non plus, et d'interroger évidemment d'interroger des gens qui ont vécu l'histoire de près. Ça sera très intéressant.
Oui, moi j'avais une question en fait sur cette histoire de l'interdiction des solis. Déjà, je voulais savoir si ça s'était posé dans d'autres pays ou pas. J'ai pensé aussi par rapport à ce que disait Morena sur le fait que chacun avait une fonction bien déterminée, ce qui veut dire qu'on ne peut pas travailler tout seul non plus. Donc, spontanément, je me dis ça a à voir avec l'idéologie communiste et le fait qu'on doit travailler ensemble et pas dans des schémas individualistes. Mais est-ce que c'est ça ou pas? Et puis, est-ce que du coup, ça s'est posé aussi en Tchécoslovaquie notamment? Enfin, voilà, cette interdiction ou éradication du soli.
Il y avait l'interdiction de travailler tout seul. On a vu vu la réflexion sur les...
Oui, excusez-moi, que je n'ai pas fait l'histoire de la situation du théâtre tchèque après 1989, parce que j'ai pris le sujet, c'était la censure, etc. Mais chez nous, d'après la loi, ce n'était pas possible de créer un autre théâtre, c'est-à-dire un groupe libre, avant 1990. C'était seulement les théâtres d'État et il y avait quelques troupes non professionnelles qui existaient. Alors, c'était après la révolution de velours, enfin après le changement de notre loi, aussi c'était possible de travailler seul, de travailler dans des petits groupes, de fonder les troupes indépendantes.
Mais vraiment le soliste, c'est-à-dire un...
Enfin, ce sont les solistes ou les petites groupes indépendantes qui pouvaient jouer, parce qu'avant, c'était pas possible, et c'était seulement les théâtres professionnels qui étaient dirigés par l'État et qui étaient payés par la ville et par le ministère de la Culture. Oui. Mais ça a changé, et maintenant nous avons 9 théâtres professionnels, et nous avons beaucoup, beaucoup de troupes indépendantes, et aussi des non-professionnels dans un très bon niveau.
Je crois que j'avais une question.
Oui, je pense que c'est justement ça, c'est-à-dire que l'on ne pouvait pas faire tout soi-même, la première chose, que chacun avait une fonction assignée. Il y avait aussi une sorte de volonté de réduire l'individualité au profit justement du travail de groupe. Et effectivement, quand on a créé ce festival de solistes, c'était en 72 à Białystok. Il y avait quelques... Au départ, c'était un festival que pour les solistes polonais. Après, on a inclus quelques solistes étrangers. Alors, les présentations, c'était les études, en fait, les petites scènes préparées par, souvent par les marionnettistes à l'école. Donc, voilà, c'était une sorte d'exercice qu'ils pouvaient préparer à l'école, mais ce n'était pas vraiment des spectacles aboutis. Voilà, donc c'est pour ça que ça n'existait pas vraiment comme forme.
Alors, j'ai une question.
J'ai vu hier encore que le théâtre des marionnettes professionnelles en Tchécoslovaquie était basé depuis 1950, disons, dans le travail collectif. Vraiment, c'était même le théâtre Drac, le fameux Drac que vous connaissez tous. Alors, c'était surtout le travail collectif. Et il faut dire que la création des troupes indépendantes et les solistes, n'oubliez pas que c'est une question économique, parce que c'est toujours plus facile de prendre pour un festival un soliste qu'un ensemble. Chez nous, ce sont les ensembles de 10-12 personnes, mais il y en avait encore plus. Alors, ce sont les questions économiques qui ont vraiment permis de créer ces petits trucs.
Moi, j'ai une question, je suis un petit peu embêtée, je ne sais pas trop comment vous la poser. On revient de Chine, où on était la semaine dernière au congrès de l'INIMA International, et je crois que tous les Français qui y étions avons été très impressionnés par le fonctionnement de l'INIMA et par un lieu où à peu près toute parole était possible. Il y avait vraiment un fonctionnement démocratique très strict, des règles de vote, un respect des statuts, l'équilibre des temps de parole, etc. Alors, je ne sais pas comment poser ma question, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Quel a été le rôle de l'UNIMA sur cette période historique, depuis sa création, voilà. Comment fonctionnait l'UNIMA? Et par rapport à ce qu'on a entendu cet après-midi, des différents cas de figure, alors soit la situation de l'information, soit le fonctionnement des théâtres d'État, la répartition des rôles, la mise en place de certains, etc. Est-ce que l'UNIMA avait un rôle de lieu d'échange, échange des idées, échange des pratiques, etc. Ou est-ce que c'était un organe qui renforçait les pouvoirs en place? Je ne sais pas si ma question est claire et si c'est pertinente, mais ça m'interroge.
Je m'excuse, mais peut-être vous savez que c'était les Tchèques qui qui ont renouvelé l'organisme UNIMA après la Deuxième Guerre mondiale. C'était 1957 que le premier congrès après la guerre s'est lieu à Prague, et que c'était aussi pour nous, la UNIMA, c'est pas seulement l'histoire que c'était fondée à Prague, mais que ça aussi fonctionnait comme ça, mais que l'UNIMA était aussi un moyen pour nous dans les années 50 d'avoir le contact avec les pays de l'Ouest, de voyager, de nous présenter. C'est le théâtre Drac se présentait pour la première fois à Washington pendant le congrès à Washington, et là-bas c'était vraiment, on se dit que c'est le théâtre en République tchèque se joue un peu autrement qu'avant. Nous avons peut-être une autre imagination sur ce théâtre en République tchèque. Et UNIMA était un peu aidé dans ses contacts en étranger. Ce qui est vrai, que ces 20 dernières années, un peu, nous tous, nous pensons à quoi ça nous sert. Est-ce que c'est, nous avons plusieurs maintenant organismes professionnels, non professionnels, qui sont unis dans l'UNIMA, bien sûr, mais l'UNIMA a un peu perdu ce rôle chez nous d'un organisme qui a tellement de puissance qu'avant. Parce que là-bas, c'était surtout les représentants de notre théâtre de marionnettes qui étaient représentés dans l'UNIMA, dans notre comité exécutif tchèque. Et c'était la bataille pour la popularisation de cet art. UNIMA a joué ce grand rôle. 80 ans. C'était fondé en 1929 à Prague. Alors que c'est une autre chose. Je sais que chez vous, vous avez TEMA, vous avez aussi UNIMA, vous avez aussi d'autres organismes comme ça. Je peux dire que c'était le rôle historique de l'UNIMA tchèque. Mais maintenant, nous pensons d'un nouveau but pour ce organisme.
Justement, par rapport à par rapport à cette période historique et à son héritage aujourd'hui, dans la redéfinition des missions de l'UNIMA, si on pose la question à quoi se sert aujourd'hui l'UNIMA dans les pays-là, donc ça, c'est une des questions qui a été posée la semaine dernière à Chengdu. Quelle est la place pour les jeunes et comment rénover les façons de faire dans ce que j'entendais du témoignage de Morana, la transition
Je finis parce que j'ai l'impression d'avoir volé le micro pour moi-même. Non, je m'excuse. Je pense que c'est une grande question sur UNIMA telle, qu'il faut vraiment, parce que une bataille est aboutie. Une bataille que notre art est accepté dans l'Europe. Que notre art est un art. Mais maintenant, il faut chercher pour UNIMA un but qui va justement répondre aux besoins des jeunes gens. Quel rôle ça sera?
Je m'appelle Fowler, Robert Fowler, je suis anglais, ça s'entend d'après mon accent. Mais alors, je m'intéresse un peu à la marionnette en Europe centrale et ailleurs. Je voudrais d'abord une petite information, parce qu'on a vu un tableau avec des festivals, des tournées à l'étranger, n'est-ce pas? On avait des compagnies. Hein. C'était avant 89. Hein. Alors, à partir de quelle date, en fait? Ça couvre quelle période?
Alors, ça commence à partir des années 70.
Ok, alors, merci. Dans ce cas, est-ce que je peux poser une question en ce qui concerne la Tchécoslovaquie? Parce qu'on veut, si on peut voir les ressemblances, les dissemblances, vous disiez, Nina, que Drac, ça perçait à l'étranger, a été facilité par l'UNIMA. On sait bien qu'il y avait d'autres compagnies, il y avait la Terre Magica, il y avait Scopa par exemple, qui voyageaient. Mais alors, c'était un chiffre assez impressionnant, j'ai trouvé la présence de ces troupes de marionnettistes polonaises à l'étranger. Est-ce que c'était quand même de cette taille? Est-ce que dans les Tchécoslovaquies de cette période-là, quand même, c'était assez facile ou difficile? Parce que je sais que dans d'autres domaines, c'était difficile.
C'est un peu difficile à dire. Il y avait toujours les théâtres qui jouaient beaucoup en étranger. C'était le théâtre Spiegel et Rubinet qui joue jusqu'à aujourd'hui beaucoup en Allemagne.
Oui.
Parce que ça correspond beaucoup avec la mentalité un peu allemande. Et il a des très bons contacts. Mais c'est vrai qu'il y avait un certain temps que c'était un théâtre de Brno qui a fait un grand voyage en Asie. Alors il était très populaire là-bas. Et c'était après le congrès à Washington que le monde commençait à connaître le théâtre grec. Et depuis, il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir à ses propres yeux la méthode dont on a travaillé à Grec. Alors, surtout Krefta, je sais que Krefta, il n'était pas le premier metteur en scène qui a commencé le style de Grec. Mais il y avait des gens qui venaient là-bas, et bien sûr les étudiants ou les stagiaires qui étaient là-bas, après font un tel grand écho de ce théâtre, et ils ont invité Drac ailleurs. Et il y avait un moment où vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'autres théâtres qui voyageaient. À ce moment-là, c'est le théâtre naïf de Liberec qui joue, et je pense que ça devrait être aussi le théâtre Alpha de Pesani qui mériterait d'être invité au plusieurs festivals. Je ne sais pas si vous avez vu les Trois Mousquetaires jouer avec les marionnettes à Gaines, qui ont vraiment eu un succès triomphal, pas seulement en Europe. Et surtout, ce que vous connaissez les dernières années, c'est le théâtre de Claire Forman, qui commence à être vraiment très, très reconnu, pas connu, mais reconnu, pas seulement en France. Mais avant, on était surtout sur place, on était surtout sur notre gloire de la Première République, dans notre réputation de Première République, et on acceptait les gens qui venaient. Mais c'était difficile dans ces années de voyager. Imaginez-vous, c'était les ensembles qui avaient 20 personnes, encore des techniciens, encore quelqu'un qui censurait, qui accompagnait, etc. Alors c'était les ensembles de 20-25 personnes. Qui est-ce qui peut les inviter?
Perhaps I'd be something like a black sheep, but you spoke about the professional puppeteers, about the amateur, about the Ulima, which is really an excellent organization. But my question is, because my field is only the traditional puppetry, who will speak and who will take about really family tradition? Anton Anderle passed away, and yes, his son time by time play. Time by time means once a 2 year. And you know what I want to say, Robert, for instance, in Asia, I saw a lot of traditional puppeteers in villages, in Bali, for instance, in Taiwan. They don't need UNIMA, they not organize. I will continue after John.
Alors, peut-être que Burin pose le problème justement des théâtres de tradition populaire qui, dans un certain sens, ne rentrent pas tout à fait dans les cadres de l'UNIMA. Et lui a parlé surtout d'Anton Anderle et peut-être la fin d'une certaine tradition. Il veut savoir qui va prendre la relève, tout cela. Et puis, il a fait une réflexion lorsqu'il a fait des voyages à l'étranger. Surtout en Indonésie, à Bali, il a vu également beaucoup de marionnettistes mais qui ne sont pas à un niveau d'organisation pour entrer dans le cadre de l'UNIMA. C'est ça.
And what I want to say is, for instance, of course, Anton's also oftentimes played on the UNIMA festival because it's one of the excellent chance to compare his theater with the other from the abroad. But the puppeteers never manage some organization. That is my topic, the censorship and the communist regime. They live only in environment of their families. They have a contact only with the families. They married through the several families. No organization, no association, nothing. This is one point. And second one, for instance, Salvatore Gatto and a lot of other puppeteers. They are amateur, professional. Anton was amateur, professional. They need Unimal, don't need. Of course, we need the Unimal. No discussion, but you know what I mean.
Johan, vous avez observé que un Dalai, autre marionnettiste de tradition populaire, vivait entre eux, jouait, circulait, mais il ne faisait pas partie, disons, des groupes d'organisations plus officielles, en aucun sens. Alors, il a posé la question, ce sont ces gens-là, on les regarde comme professionnels, puisque ce sont des gens qui gagnent leur vie avec la marionnette, ou comme amateurs. Et il pose la même question, par exemple, pour quelqu'un comme Salvatore Gatto, que vous connaissez tous, je pense, et pour ces marionnettistes qui travaillent seuls, mais qui n'appartiennent pas dans un sens, qui sont invités à tous les festivals aujourd'hui, mais qui quand même ne font pas vraiment partie du même groupe que les grandes compagnies d'État ou officielles. Et il pose la question, l'UNIMA est utile, l'UNIMA n'est pas utile pour ces marionnettistes, est-ce qu'ils doivent faire partie de l'UNIMA, est-ce que ça n'a pas d'importance pour eux?
Yes. And also, I don't need microphone. Also, of course, the traditional puppetry have some specific aesthetics and poetics of this genre. And perhaps it's something like antiquity or something like that. But also, it is a part of intangible cultural heritage. Simply without development, because no next generation, for instance, is difficult to play in Slovakia after 60 years when the break. The family tradition, of course.
Alors, également, Juraj parle justement de l'esthétique et de la des marionnettes de tradition, qui n'est pas du tout la même chose, disons, que l'esthétique, disons, d'une compagnie dont les membres sont passés par les écoles de marionnettes ou de choses de ce genre. Et, je perds mon film. Oui, aussi, il pose cette question, surtout parce que lui s'occupe beaucoup de l'aspect de l'UNESCO, qui s'occupe de la tradition, de l'héritage.
Le
patrimoine immatériel de l'humanité. Et quel exactement est le rôle? Parce que d'un côté, on reconnaît ces traditions, de l'autre, dans un certain sens, ils sont dans un autre cadre.
En voie de disparition. Il y a une question d'Hélène et de Julie, et puis après il faudra qu'on libère la A. Joël, on doit libérer la.
Non, on a un peu de. On a un
okay.
Quart
d'heure. D'accord.
Ça serait bien que vers 5h15.
Ok.
Donc je m'appelle Hélène Beauchamp, je suis universitaire, je travaille sur la marionnette aussi. Et en fait, j'avais une question un peu générale pour Nina et Maja. J'ai eu du mal à saisir en fait le statut du travail plastique et formel sur les marionnettes par rapport à la censure, aux questions de censure et de contrôle. Parce que par moment, j'ai l'impression que l'idée de théâtre d'art est une sorte de piège parce que ça permet d'institutionnaliser et donc de contrôler. Et par moments, j'ai l'impression que quand il y a une recherche formelle un peu étrange ou bizarre, ça devient suspect. Donc, parce que j'ai cru voir des formes qui n'étaient pas non plus très très classiques. Donc, je voulais voir un peu comment du point de vue plastique, c'était abordé par ces questions de contrôle, de censure. Est-ce que ça posait problème ou est-ce que finalement la forme importait peu, quoi ?
D'accord. C'était surtout au début des années 50 où on n'était pas vraiment libre en ce qui concerne la forme. Et après, effectivement, dès la deuxième moitié des années 50, on était surtout contraint dans le choix du texte, tandis que la forme, donc c'est peut-être aussi cette spécificité du théâtre polonais qui a pu évoluer quand même à partir de la deuxième moitié des années 50. on a fait beaucoup de recherches au niveau de la forme, de la nouvelle forme. Et effectivement, la censure a changé dès la deuxième moitié des années 50. La censure se contentait surtout, donc dans le cas des théâtres de marionnettes, à vérifier le texte, tandis qu'après, il n'y avait personne qui vérifiait vraiment les spectacles. C'est-à-dire que les artistes quand même étaient libres dans leur recherche et dans la mise en scène, dans l'interprétation du texte.
Mais est-ce que le côté, du coup, on fait un théâtre d'art, on laisse la recherche esthétique, peut être une sorte de prétexte pour une sorte d'habillage un peu de liberté et qui cache en fait une sorte de masque pour une censure sur le fond, quoi. Est-ce que ça a pu arriver en Tchécoslovaquie ou en Pologne, ce genre de...
Oui, on a un peu vu avec l'exemple de la Chine, Jean-Luc Pinson nous en parlait. Ce qui préoccupe les artistes, c'est avant tout l'art. Donc ne pas perdre la main, donc ne pas pouvoir jouer, c'est une tragédie. Donc on l'a vu avec l'exemple slovène où ils se sont réfugiés dans le savoir-faire. Peu importe les thèmes qu'on leur proposait, ils ont essayé de bien manipuler. Et en Chine, ça a donné une excellence dans la virtuosité. Ils sont réfugiés dans la virtuosité. Et on peut imaginer qu'en Pologne, sans doute, il y a eu un refuge dans l'art, puisque la parole était confisquée, évidemment, Kiyakia. C'est pas un masque, mais c'est simplement une échappatoire pour les artistes.
Chez nous, c'était un peu autrement. Il y avait deux lignes, disons. Je vous ai déjà parlé que le théâtre de marionnettes, après les années 1950, c'était le théâtre illusif, comme on disait. Oui. Alors c'était vraiment naturel, c'est après un modèle dont on avait déjà parlé. Mais je me rappelle, c'était au théâtre naïf à Liberec, au nord de la Bohème, enfin de la Tchéquie, où il y avait un metteur en scène qui a fait absolument autrement la mise en scène. Et c'était sur une princesse, qu'on parlait de princesse aux cheveux d'or, mais elle a eu les cheveux bleus. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer la critique. Et on a dit que c'est le polonisme, le sacre polonisme qui est arrivé chez nous, parce que là-bas, il avait l'inspiration de Kilian, qui vraiment stylisait les choses, il travaillait avec aussi l'autre matériel pas typique pour les marionnettes tchèques, où on a travaillé avec le papier mâché pour les marionnettes à tige. Mais ça, c'était une ligne. C'était le sacre polonisme qui venait chez nous, c'est-à-dire plus de couleurs. Il avait l'inspiration de folklore aussi. Et l'autre, c'était le retour à notre tradition de marionnettes à fil qui sortait d'une tradition baroque. Qui était sculpté en bois et qui était assez illusif, mais c'était les marionnettes à fil et qui était aussi une espèce d'une de retour à la tradition, mais de la regarder un peu d'un autre point de vue. Alors chez nous aussi, c'était une certaine forme de protest d'utiliser ces marionnettes à fil. Parce que le modèle russe, c'était les marionnettes à tige. Imaginez-vous quelle bataille entre ces deux types technologiques qui étaient une bataille politique, disons. C'est drôle.
Oui, moi j'ai une question pour Yuraï, que je dis en français parce que mon anglais vaut rien. John, vous traduisez après. C'est une question et une remarque. La question, c'était quand j'ai l'extrait de le film qu'on a vu, avec les marionnettes traditionnelles et le diable, m'ont fait très très fortement penser à une séquence du film Faust de Jan Svankmajer dont on a parlé, avec vraiment le bruit, enfin il y avait les mêmes sons, les mêmes marionnettes avec une tige, voilà. Donc savoir déjà si c'est une influence, enfin une citation directe de Svankmajer, enfin un intérêt direct pour cette pratique traditionnelle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que j'ai voulu. Enfin,
l'opposé.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas comment dans quel ordre je l'ai dit, mais voilà. Et la deuxième, là, c'était plus une remarque. C'était peut-être, alors je ne sais pas comment ça peut se transmettre, effectivement il y a la tradition est vraiment en train de mourir, mais en France on a vu aussi qu'après beaucoup d'expérimentation, il y a aussi un désir de la part des jeunes marionnettistes de revenir vers des formes et des marionnettes traditionnelles. Donc peut-être que tout n'est pas perdu et que ces marionnettes-là ne sont pas vouées à aller au musée immatériel de l'UNESCO et qu'elles peuvent continuer à être vivantes aussi. Bon, ça c'est...
traditional puppetry, and he told tradition is for me that I will play the same repertoire as my parents and grandparents, that I will play with the same puppets as my parents and grandparents, and I don't use some electricity for some effect, playback or something like that. It means it has to be live, improvising in live.
Anton Handele, il a la meilleure réponse à cela. Il disait, moi, je joue de la même façon que mes parents et grands-parents, je joue avec les mêmes marionnettes et je fais exactement la même chose. J'essaie de ne pas employer trop de choses techniques, l'éclairage et autres effets. Et que j'improvise. Parce que ça est aussi très important, parce qu'en fait, lorsqu'on ne voulait pas lui donner à son père, c'était en partie parce qu'il improvisait.
And also, of course, several groups, for instance, on the Academy of Art, Theatre Academy, they borrow puppets from deposit and they try to play new plays or old plays, etc. But
il y a certains groupes qui sortent, je sais pas, des écoles de marionnettistes. Ou des académies et que veulent faire quelque chose, qui expérimenter un peu avec les vieilles marionnettes. Ils viennent les empruntent pour faire quelque chose avec ces marionnettes, pour voir comment ça marche.
But if you have not this theater in your blood, you have to study a lot of. But those of the students know that the traditional puppetry in the blood and not studied all text or context, etc. So it's it's all fashionable, but it's not good. For instance, there's also a lot of one theater made a project last year with the plays Faust and Don Juan, and they used the puppets from Anton Handele, but not working very well.
Il faut absolument que cela soit dans le sang, parce que par exemple l'an dernier il y a un théâtre qui a voulu emprunter les marionnettes d'Handele pour donner des spectacles des deux grands classiques du répertoire, Don Juan et Faust. Et ça ne marchait pas très bien, parce que vraiment eux, ils n'avaient pas cela dans le sang.
Ils travaillent pas. Alors, très courte question et très courte réponse.
Oui, juste un regard un peu inversé sur les choses. J'ai joué à Prague dans l'été 89. Alors c'était assez étrange parce que c'était un spectacle qui était Salut Fraternité sur la Révolution française, qu'on appelait des tas d'idées de liberté. Il était très curieux pour les comédiens français. Alors moi je connaissais un peu mieux le terrain, j'ai plus vite compris, de me rendre compte que on riait quand c'était apparemment pas drôle pour nous, on réagissait autrement, toujours autrement, et en fait on lisait le spectacle avec une autre grille de lecture que la nôtre. Et c'était assez extraordinaire parce que on a plutôt souvent l'habitude, nous, de vouloir jouer et mener le jeu. Et là on était complètement dominé par le public, parce qu'il réagissait avec sa lecture du spectacle. Très curieux. Oui, à Prague.
Et c'était pendant un festival ou...
Non, c'était... Ça avait été monté dans une relation, peut-être avec un appui du consulat de France et de l'Alliance française, parce qu'on avait un public assez francophone aussi.
Non, je sais très bien, on a, c'est quel bout, hein. Ça marche? Pour faire un pont entre l'Asie et ce que disait Yuraï, hein, en fait, l'UNUMA sert à des choses, hein, parce que, par exemple, des dirigeants de cette organisation, ils ont vu une représentation d'une troupe de marionnettistes de Cambodge, au festival de Charleville-Mézières, et puis bon, il y avait entre la troupe et l'UNIMA, je ne sais pas si on a eu du succès, mais la possibilité d'une bourse, peut-être ça n'a pas réussi, mais quand même il y avait cette idée de donner, je pense, quelques 16 000 livres, je ne sais pas exactement, pour fabriquer des grands cuirs, ces marionnettes en cuir. C'est de dire, bon, il y a une implication de la part de l'UNIMA, je ne sais pas si on va recevoir de l'argent, mais quand même il y a un intérêt et on va peut-être créer une branche, une filiale de cette association au Cambodge. En plus, quand on parle de ces marionnettistes en Asie, hein, la situation varie beaucoup de pays en pays. Hein. Par exemple, il y a des troupes au Cambodge, mais ils gagnent mal leur vie. C'est très, très, très difficile. Alors que dans d'autres pays, hein, il y a une prolifération de troupes et oui, on peut avoir un salaire, une récompense assez décente. Mais ça varie beaucoup. Une autre petite question pour notre représentant slovaque. Simplement, il disait que dans son pays, la marionnette est méprisée. Alors que, par exemple, et lui, il est universitaire marionnettiste et vraiment musicien formidable. Il sait de ce qu'il parle. Alors, pourquoi ce mépris? Parce que, par exemple, il y a sur la liste de l'UNESCO, par exemple, le fuyara, n'est-ce pas? Bon, instrument traditionnel, il joue sur cet instrument. Alors, pourquoi un instrument traditionnel, mais pas la marionnette? Pourquoi cette attitude en Slovaquie vers cette marionnette traditionnelle? Et dernier point simplement, Julie, plutôt, il disait que, est-ce que la censure est toujours mauvaise? Je crois que je vous cite.
Ça, c'est ce qu'on...
Oui, alors, par exemple, et j'évoque simplement une thèse des années 60 et 70. Hein. Il y avait un livre en anglais, et c'était un thème repris par George Steiner, qui est assez connu, polyglotte, multiculturel, européen. C'est-à-dire « Writers Under Pressure ». La thèse, c'était que ces artistes, dans le bloc soviétique, en Europe centrale et en Russie, hein, grâce à cette censure, grâce à cette pression, quand même, ils produisaient des choses formidables. Alors, je n'épouse pas nécessairement cette thèse, mais quand même, c'était assez courant pendant cette période-là, même si elle est tombée, cette idée, en désuétude.
C'est une des questions qu'on peut se poser, effectivement. Alors, comment on fait des signes, là, pour vraiment qu'on close aujourd'hui la journée? Ce que je vous propose, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas fait le tour de la question, et ça donne seulement envie d'en savoir beaucoup plus. Si vous avez des questions, envoyez-les. J'ai vu Claudia, mais vraiment, on est obligé de terminer maintenant. Vous nous l'envoyez, vous sur l'adresse. Par exemple, vous allez sur le PAM, vous envoyez sur contact ou sur le site de Théma, et on transférera la question et on diffusera la réponse, ainsi que les différents documents si vous en avez besoin, la traduction du texte de Giovanni Moretti, le texte de Yuraï, etc., pour que vous puissiez approfondir. On vous donne rendez-vous aux prochaines étapes de recherche. Il faut qu'on continue à échanger, donc faites-nous part de vos questions auxquelles on n'a pas répondu. Et je voulais juste En deux phrases, remercier des personnes qui nous ont beaucoup aidé à préparer la journée, puisque c'est pas la peine de faire une conclusion, on n'est pas en mesure de conclure pour l'instant, c'est juste une étape de travail. Je voudrais remercier Sylvia Walika qui a préparé le diaporama que vous avez pu voir, qui a aidé Maya aussi à faire ses recherches et qui m'a aidé beaucoup moi pour préparer. À la BNF, Iris Berbin, Cécile Obligi et Joël Vol qui ont aussi activement contribué à la préparation de la journée. Marion Chenet qui m'a sorti une partie de ses archives pour les photos sur les pays de l'Est. Et Valérie Marchand, Elsa Violet et Emmanuel Castan à Théma qui ont aussi eu une part active, très active dans la préparation de cette journée. Voilà, on vous remercie de votre présence et puis on vous donne rendez-vous pour les prochaines étapes.